Bien le bonsoir, amis auditeurs, et bien le bonsoir, amis auditrices. Je devrais même dire salut à toi, auditeur, salut à toi, auditrice, pardon. C'est un petit peu le thème de l'émission ce soir. Bon, vous écoutez Ultrasonore, vous êtes sur Radio B, 90 FM, vous avez fait un excellent choix. Ultrasonore avec vous en direct pour vous accompagner jusqu'à 21h sur les bonnes ondes. Voilà, je ne suis pas seul à présenter cette émission ce soir, mon seul camarade chroniqueur, parce que Ange, notre voix féminine, notre voix sulfureuse, a déserté les micros de Radio B ce soir pour d'autres activités. Ténébreuse peut-être, hein, on ne sait pas. Non, bon, elle n'était pas disponible ce soir, donc voilà, elle reviendra mardi prochain.
Dans 15 jours.
Voilà. Voilà. Bon, du coup, Fred, c'est toi qui
suis seul face à toi.
Dans le studio, là, tout seul, face
exactement.
À tes 1, 2, 3, 4, 5 micros.
Ouais.
Ça va, c'est impressionnant.
C'est ce qu'on appelle avoir l'embarras du choix.
Ah, exactement. sans jeu de mots. Et donc, du coup, ce soir, on s'est dit qu'un événement avait frappé un petit peu nos souvenirs préadolescents d'il y a fort longtemps, hein, une vingtaine d'années, nos premiers concerts
je dirais même bientôt 30.
Ouais, oh là là, arrête. Oui, t'as raison. Et voilà, bon, bah, si vous écoutez, si vous êtes un peu un rocker et que vous avez la quarantaine, vous avez écouté un peu de rock alternatif, peut-être que vous avez connu François G. Lazaro.
Voilà, leader de Pigalle, des Garçons Bouchers, qui a joué aussi dans Los Carayos. Un groupe un peu all-star, fondateur du label Boucherie Productions, voilà, qui nous a quittés le 25 février, samedi 25 février.
Ouais. On a pris donc, c'était du coup il y a une semaine, une grosse semaine, et on est un petit peu en deuil, quoi. Quand j'ai vu la news, un peu comme tout le monde, j'imagine, avec un message poche sur le téléphone qui arrive, oh, mort de François G. Lazaro, je fais non.
Et oui.
Tu te dis, bon, voilà, quoi. C'est quand même un bonhomme que, pour ma part, j'ai vu vraiment pas mal de fois en concert.
Ouais.
Je crois avec les Garçons Bouchers, avec Pigalle, avec son dernier spectacle pour enfants aussi, là, qui était passé ici à la Tannerie,
oui,
d'ailleurs.
Oui, exact, ouais. On avait eu le plaisir de le revoir dans ce cadre-là, qui était plutôt sympathique.
Tout, ce nom, de ce spectacle, d'ailleurs.
Il avait sorti plusieurs albums pour enfants. Il y avait Pouette et Matata, Mon Pingouin et les autres, je crois, un truc comme ça.
Ouais.
C'était des chansons. Alors, c'était pas tout du neuf, hein, c'était des reprises de chansons qu'il avait déjà sorties à l'époque de Boucherie Productions, où il avait fait il avait eu la bonne idée rapidement avec Boucherie Prod de faire des compiles, une compile pour enfants qui s'appelait Mon Grand Frère est un Rocker, sur laquelle il invitait la crème du rock alternatif et du punk rock français pour faire une chanson pour les petits, quoi.
Ouais,
voilà, donc t'avais Parabellum, Les Vents Passent, La Mano, Pigalle, Les Garçons Bouchers, Los Carayos, OTH.
Ludwig, non ?
OTH, pas sûr. Non, pas Ludwig, pas Les Berrues, parti, Métal Urbain.
Ah ouais,
voilà. Et puis d'autres encore. Et puis il avait renouvelé l'opération quelques années plus tard, bonne dizaine d'années plus tard, il avait fait Petite Oreille. Alors cette fois, que avec des groupes estampillés Bouche Prod. Boucherie Productions, Boucherie Productions qui s'était vachement agrandie, qui avait plusieurs sous-labels en fonction des styles de musique. Il y avait Abatrash pour les musiques, bien métal. Il y avait Acoustec pour tout ce qui était folk et acoustique. Et puis il y avait Chantons sous la truie.
Exact. On va parler de tout ça après avec toi, Fred. Du coup, on est deux ce soir, donc Ange n'est pas là, et on s'est dit on va diviser l'émission un petit peu en deux parties. Donc toi, tu vas revenir un peu sur la carrière de G. Lazaro, ses groupes, tout ça, ce qu'il a fait. Moi, je vais plutôt faire un rapide topo sur la scène alternative à ce moment-là. Donc on est dans les années 80. Donc comme je le disais précédemment, si vous avez la quarantaine, que vous êtes un incorrigible rocker ayant écouté du punk durant votre adolescence, forcément cette émission va vous plaire, du moins on l'espère. Hein. Si vous avez donc la quarantaine et que votre enfant préado vous demande « Papa, c'était quoi le rock à ton époque ?» Eh ben vous lui répondrez « Fiston, Le mouvement alternatif du rock, à ce moment-là, était porté par des valeurs comme l'indépendance, l'autogestion, là, le do-it-yourself, l'anticonformisme, l'autodérision, une grosse dose de contre-culture. Imagine-toi une époque, mon petit gamin, où les smartphones et réseaux sociaux n'existaient pas. Oui, c'était possible. Alors, je ne veux pas paraître rabat-joie, mais quand même, c'était pas si mal cette période, Fred. Qu'est-ce que t'en penses ?
Oui,
on se faisait pas harceler sur les réseaux sociaux.
On se faisait harceler autrement, éventuellement.
Mais c'était moins violent.
Il y avait effectivement pas de réseaux sociaux. Du coup, la communication des groupes, elle passait autrement. Elle passait essentiellement aussi beaucoup pour les petits groupes, pour tout le réseau underground, par les fanzines.
À part les fanzines, il fallait acheter une annonce dans les magazines pour dire que tu sortes un album, pour dire que tu partais, t'affichais ta tournée de concert, tu payais ça 800 €, voilà, à l'époque, un petit encart dans des journaux pas spécialement non plus nationaux. Hein, je l'ai fait, et donc voilà, ça coûtait quand même un peu du blé. Hein. Du coup, en quelques années, des groupes comme Pigalle, Les Garçons Bouchers, Los Carrios, Les Berruriers Noirs, Ludwig von 88, Les Wampas, La Soirée Déglinguée, Parabellum, Les Négresses Vertes, OTH, et beaucoup d'autres, inventent une déclinaison française de la vague punk qui avait déferlé donc sur le monde anglo-saxon quelques années plus tôt. Avec une particularité qui est restée comme une marque de fabrique de ce courant, la volonté de demeurer soigneusement à l'écart des circuits traditionnels de distribution de la musique. On en parlera tout à l'heure avec Boucherie Prod. Donc ces quepons à la française font vivre une scène musicale parallèle dans les squats, dans les petites salles. Ils rejettent radicalement les grandes maisons de disques et entendent rester maître de leurs faits et gestes en choisissant l'autoproduction ou de petites maisons de disques indépendantes. Certains de ces musiciens s'investissent eux-mêmes dans ces nouveaux circuits alternatifs. On est pile poil dans le vif du sujet. J'aimerais introduire cette émission avec deux groupes, le super groupe dont tu parlais tout à l'heure, les Los Carrios. Année d'activité 85-90, ça a dû vivre 5 ans cette histoire.
Ouais, je crois qu'ils ont arrêté en 90. Ouais.
C'est ça. On va passer deux titres d'affilée. Forcément, on va passer Rawhide. Il faut que vous connaissiez Rawhide. C'est un live de 88. Et on va enchaîner tout de suite avec un titre un peu plus swingo, punky, chanson, c'est Madeleine.
Ouais,
c'était un titre assez connu.
Ouais, c'est du folk acadien, donc c'est-à-dire d'Amérique du Nord, d'Acadie, je ne sais plus si c'est acadien ou québécois. En tout cas, ça vient d'Amérique, mais d'une partie francophone de l'Amérique.
Ouais, ça sonne bien comme ça, en tout cas. Ouais.
Voilà, et donc qui a été repris, puisque Los Carrios, c'était un groupe folk dans lequel chacun des super-héros qui formaient ce groupe.
Ce super groupe, il y a François Gilazaro, donc des Garçons Bouchers de Pigalle. Il y a Manu Chao, bien sûr. Manu Chao,
lui qui arrivait avec des influences latines, on va dire.
Ouais. Il y a Schulz, rocker, chanteur de Parabellum.
Voilà, complètement. C'était plus rockabilly, ouais.
Il y a Alain Wampas, le premier contrebassiste des Wampas, aussi, dans ce groupe, qui allait devenir le futur contrebassiste de la Manon Degra de Happy Driver aussi.
Exact.
Il y a Antoine Chao, aussi du groupe Chihuahua, donc le frère de Manu, et futur trompettiste de la Manon Degra, qui lui est officier en tant que caisse claire et percu. Voilà. On s'écoute ça, c'est Los Carrios, et ma foi, j'espère que là d'où il est, notre bon monsieur François Gilazaro, j'espère qu'il va se bouger un petit peu, qu'il va brasser un peu et qu'il peut-être nous fera un signe de l'au-delà.
Peut-être qu'il va ressortir le violon. Et jouer.
Exactement, on s'écoute ça. Los Carrios, vous écoutez Ultra Sonore et vous êtes sur Radio B.
T'as couché dehors. Oh, Madeleine, t'as laissé dans le brouillard.
Oh, Madeleine,
t'as couché dehors.
Oh, Madeleine,
t'as laissé dans le brouillard.
parce qu'on va quand même pas faire un disque live dans le bruit.
Une petite gâterie pour François. Allez, vas-y, René.
On va pas faire un disque live dans le Larsen non plus, remarquez.
Allez, vas-y, fais péter la mandoline là.
Carayos à l'instant sur les ondes de Radio B. Voilà, ça fait du bien un petit Los Carayos là de derrière les fagots comme ça, tiens.
Ah oui, c'était bien efficace ce groupe. Quel dommage qu'on n'ait pas pu les voir.
Ouais. Bah ouais, là par contre il fallait vraiment être plus
vieux. Je pense qu'il fallait, ouais, puis il fallait être parisien. Je pense qu'ils n'ont pas fait de tournée en France.
Ils jouaient pas mal dans les squats.
Bah oui, puis c'était pas le groupe principal. Schulz, voilà. Il avait Parabellum. Manu Chao, il avait
la Mano. Commençait à bien cartonner.
François Di Lazzaro, il avait d'autres projets.
Voilà. Et on passe. Bon, alors toute cette période de rock alternatif, eh bien sûr, c'est aussi représenté par les labels indépendants contre les majors, Fight the Major. En 1985, donc, Haji Lazzaro, qui nous a quittés le 25 février dernier, fondateur des Garçons Bouchers et de Pigalle, donc, lance le label Boucherie Prod, tu vas nous en parler tout à l'heure, ouais. Fred, qui se veut donc clairement une alternative aux majors. Mmh. Il va publier le premier album de la Mano, dont loin de là, d'autres labels comme Bondage Records ou Gouniaf Movement vont voir défiler les guerriers de cette véritable insurrection sonore dans le paysage musical français. Donc, effectivement, tu vas peut-être en parler, donc je ne peux pas spoiler, mais Bondage Bondage Records.
Non, j'en parle pas, donc tu peux
pas,
y aller.
Donc Bondage, bon, bah, voilà, c'était le label de Marsu, tu sais, le manager des Berruriers Noirs.
Ouais, et sur Bondage, il y avait...
Il y avait le Ludwig, il y avait les derniers albums des Berrues.
Ouais, je sais qu'il y avait les Non-Tropo aussi, TH, qui étaient l'alter ego des VRP. Les VRP, ils ne devaient pas être chez Bondage, je suis pas sûr, mais les Non-Tropo étaient chez Bondage.
Il y avait, putain, merde, les Washington Dead Cats, je crois.
C'est possible. Raymond et les Blancs-Bec, je sais plus si c'était sur Bondage ou sur Crash Disc.
Ouais, je sais pas. Oh non. Crash Disc, c'est venu bien après.
C'est vrai?
Ah ouais, c'est beaucoup plus récent, Crash Disc. Alors, cette scène alternative, elle se concentre à Paris en particulier, dans quelques rues du nord-est de la capitale, entre les squats de Belleville et les rues du Bagnolet et de Buzenval. L'énergie, mais aussi l'amateurisme de cette époque, comme l'esprit de famille qui unit tous ces groupes, laisse des souvenirs indélébiles à ceux qui en sont les acteurs. Mais l'amertume et les regrets aussi font partie du récit de cette époque. Les années passent, les concerts dans les squats se raréfient, les rockeurs se rangent, signent des contrats avec les majors. On pense à Malo Negra avec le label Virgin. Ça, c'était en 89. Donc, ça commence un petit peu à sentir la fin de cette effervescence, de ce mouvement, de toute cette flamme-là à la fin des années 80, début 90. Donc, du coup, je trouve qu'il y a un groupe qui marque assez bien ce virage entre la scène alternative très indépendante, très squat, on joue dans des squats, machin, et la scène d'après, donc, post 1990, où ça va commencer à se ranger, effectivement, à mieux s'organiser, à aller jouer dans des salles où il y a des conditions plus favorables.
Et où ça commence à se structurer, finalement.
Voilà, c'est ça. Et je trouve que 1989, le live des Berruriers Noirs, Viva Bertaga, marque bien cette transition-là,
oui.
Ce virage-là. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on va s'écouter un titre, un monument
du rock,
du rock alternatif français. Vous devez tous avoir ça dans votre CD tech ou dans votre bande sonore. Donc le titre, c'est bien entendu, c'est Porcherie. C'était issu de l'album donc de Viva Bertaga, qui était un album d'adieu, qui était enregistré en novembre 89 à l'Olympia. Il est sorti en double CD. Voilà, bon, vous connaissez tous Berruriers Noirs, Viva Bertaga, hein, si vous êtes un peu punk dans l'âme. Et puis on va enchaîner tout de suite avec un autre groupe un peu moins hype, un peu moins connu, ils sont de Montpellier, c'est OTH, ils ont été actifs entre 1978 et 91. Et on va s'écouter un titre qui pour ma part me rappelle beaucoup mon adolescence, c'est le rap des Rapetous. Ça te parle ?
Oui, ça me parle, oui.
Un titre issu d'un album de 1988, l'album c'était Sauvagerie.
Oui.
Voilà, voilà. Bon, allez, maintenant c'est le moment de lever les mains en l'air, toutes les mains en l'air, et pousser des chaises du salon, quoi, c'est les Berruriers Noirs. C'est parti, vous écoutez le trace sonore si vous êtes sur Radio B.
De toute façon, on s'en fout, la jeunesse emmerde le Front National. Yeah.
Mardi du mois de 20h à 21h sur Radio B.
Oh là là, quelle nostalgie Fred, mais quelle nostalgie.
Ouais. C'est marrant parce qu'il y a des albums live qui... Bah voilà quoi, qui rendent rien. Mais c'est vrai que celui-ci, le Viva Bertaga des Bérus, t'avais envie d'y être quoi.
Ah bah non mais là...
Surtout par rapport aux albums studio qu'ils avaient pu sortir, les Bérus, qui avaient un son qui était quand même pas, pas extraordinaire.
C'était pas...
Disons-le, le Nada, hein. Macadam Massacre et compagnie, c'était quand même un peu cracra.
On avait un son qui était punk. Pour
voilà. Celui-là, il était quand même propre, quoi. Et,
complètement.
Et l'énergie qu'il y avait, voilà, ça donnait envie, d'y être.
Là. Levez les doigts, tous les doigts, la jeunesse. Bon, par contre, la jeunesse emmerde le Front National.
Oui, bah, elle l'emmerde toujours, mais plus jamais de 15%, malheureusement.
Ouais, c'est ce qu'on disait en antenne. Malheureusement, là, on est bien au-dessus des 15%, malheureusement.
On est, oui.
Bref. Allez, on va continuer. On est 1989, l'année des adieux. Voilà, c'est tout. Hop, hop, on range tout, on met un coup de balai, on ramasse la bière sèche par terre à coups de serpillière. 1989, c'est aussi l'année de la fin des Bérus, les Bérus et Noirs, hein, qui se sabordent après trois concerts d'adieu à l'Olympia. Le groupe est arrivé à la fin d'un cycle, donc trop d'intérêts en jeu, trop de pression, trop de divergences. Au sein même de leur collectif, quelques temps plus tard, la mort par overdose du chanteur Elno, des Négresses Vertes,
oui.
Qui était un ami proche des Bérus et figure de la scène alternative. 1989 aussi, ça marque la fin d'une certaine candeur aussi, une époque bel et bien révolue. La vague alternative touche à sa fin, mais la musique demeure. De nombreux groupes continuent à sortir des disques, de tourner dans toutes les salles de France, et c'est le cas par exemple des Wampas qui n'ont jamais arrêté.
C'est ça.
Qui n'ont jamais arrêté. Didier Wampas qui n'a jamais lâché son boulot de technicien de maintenance
ce
à la RATP.
Ce qui lui a permis d'être un musicien libre.
Il va garder son indépendance.
Voilà.
Bon, après, il y a des groupes qui ont arrêté, comme les Bérus, qui se sont reformés, rappelle-toi, pour les transmusicales.
Quelques années,
en 2006, un truc comme ça. Ils se sont reformés pendant 3 ans. Ils ont sorti un album d'ailleurs.
Ouais.
Qui était vraiment, disons-le, pas non plus très
c'était
transcendant.
Un peu, c'était un peu réchauffé, quoi.
Voilà, voilà. Les Ludwig aussi, qui sont revenus.
Les Shérifs récemment.
Il y a juste Gogol Premier qu'on n'a jamais
vu. Il a joué en concert à Bourg il y a quelques années.
Ah ouais, bon.
Ah oui, en fait, lui, il n'a jamais vraiment arrêté, mais il n'a jamais vraiment rien fait de très très nouveau non plus, quoi. Voilà.
Mais bon, il était quand même dans la scène, voilà. Donc, j'ai trouvé un morceau qui traînait, ça peut être très compliqué de le trouver, c'est Puta des Wampas,
ouais.
Qui reprend un petit peu tous ces groupes qui en parlent dans ce titre-là. Les Wampas, donc avec les titres Puta qu'on va s'écouter tout de suite, c'est issu de l'album Les Wampas vous aiment, ça date de 1990. Donc on est vraiment là à la fin d'une ère quoi. Et on va enchaîner tout de suite avec un autre groupe qui m'a fait beaucoup plaisir à retrouver quand j'ai construit la chronique de cette émission. C'est Ludwig van 88 avec l'album Oulala 2 de 1987.
Oui.
Là ça remonte à très loin. Ils ont ressorti après en 90 je crois Oulala 2 avec une réédition en double CD. Et donc, le titre qu'on va s'écouter des Ludwig, c'est Fistfuck Playa Club. Ça va vous faire plaisir. Une petite intro spéciale dédicace aux moustachus. Je n'en dis pas plus. Voilà. Allez, donc, on va continuer dans la scène alternative française avec les Wampas qui font un honneur à tous ces groupes de la fin des années 90. Et on enchaîne tout de suite après avec Ludwig von 88. Vous écoutez toujours Ultra Sonore.
Papa. satellites, putain les coronados, et puis putain les carayos.
Et oui, on l'avait pas entendu, le jingle, il était mal parti, voilà. Ah, mon Dieu, mon Dieu que ça fait du bien. Donc,
qu'est-ce qui était drôle, cet album Oulala 2, c'était rafraîchissant.
C'était
autant les Bérus, c'était très politisé, très sérieux, très sombre.
Ouais.
Autant les Bérus, c'était la récré, quoi.
Les Ludwig, c'était la récré.
Les Ludwig, c'était la récré. Même sur scène, c'était confetti.
C'était un peu le Nounoursland.
C'était drôle.
Voilà. Les Bérus, c'était plus cocaïne, alors que les Ludwig, c'était plus LSD, peut-être.
je sais pas où ils en étaient tous, mais en tout cas voilà, c'était assez,
c'était cette époque là
plaisant.
Voilà.
Avant d'y aller, dans la chanson des Vents Passent, il fait référence en tout cas à des tas de groupes, et il y en a un dans le lot qui s'appelle Puta Oui Oui. Donc Oui Oui, c'est bien un nom de groupe.
Oui.
C'était un groupe qui était plus pop, on va dire, que punk rock. Hein, c'est plutôt clair. Et dans ce groupe, il y avait un certain Michel Gondry qui était à la batterie et qui réalisait les clips et qui est cinéaste maintenant, qui est réalisateur, qui a réalisé La Science des Rêves, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui a dû réaliser un film de super-héros aussi qui est un peu passé, qui est pas son meilleur film.
Ouais.
Voilà, et qui est un excellent réalisateur, qui est très inventif et que je vous recommande. Voilà, pour l'anecdote. Et donc, au milieu de toute cette vague alternative, on en parlait tout à l'heure, il y avait un personnage, une figure, une gueule même, c'était François Adji Lazzaro, qui nous a quittés donc ce samedi 25 février. Difficile de rater ce musicien à l'allure ogresque, et je ne parle pas que de ses 130 kilos, voire plus.
Il faisait catcheur un peu,
il
jouait de catcheur.
Lui-même le disait, sur toutes mes pochettes de disques, il y a ma gueule. Donc tant qu'à avoir une gueule effroyable, autant en profiter.
Et oui,
c'est vrai que sa gueule, il en a profité, il l'a affiché puisque sa gueule l'a emmené jusque sur les plateaux de cinéma. Je me souviens notamment d'un film un peu ovni qui s'appelait De la morte de l'amore, où il jouait une espèce de simplet qui travaillait avec un croque-mort, voilà, ouais. Qui assistait à un croque-mort, et puis il y avait une histoire de zombie, voilà, dans le truc. Et puis il a aussi joué dans La Cité des Enfants Perdus de Caro et Jeunet, voilà, qui avait réalisé Délicatessen aussi, puis Amélie Poulain pour ouais. Jean-Pierre Jeunet, voilà. Mais François Hadji Lazaro, bon, c'était le cinéma, mais c'était quand même surtout la musique. La musique et l'engagement, parce qu'il était né dans une famille de classe moyenne qui était très politisée, et il s'est rapidement engagé dans les jeunesses communistes, puis au nouveau parti anticapitaliste, un petit peu en contraste avec tous les punks qui se revendiquaient plus anarchistes. Lui, il était communiste, ouais. Il était rouge, c'était même ce qu'on appelait un redskin à l'époque. Tous ceux qui s'engageaient, qui se disaient anarchistes et puis qui finalement allaient signer sur des grosses majors après. Bref, son engagement se faisait même parfois à coup de boule, hein, quand il fallait aller se castagner avec les fachos. Côté musique, François Hadji Lazaro a commencé la guitare à 12 ans, comme beaucoup, pour draguer les filles.
Eh oui.
Il se passionnait pour la folk de Dylan, autant que pour les chansons de Fréhel et pour le punk. Son tout premier groupe d'ailleurs était un groupe de folk qui s'appelait Pénélope. On ne le sait que trop peu. On doit encore pouvoir trouver le vinyle sur les circuits d'occasion, mais alors c'est une rareté de chez rareté, à mon avis.
Hein. C'est cher.
Et je crois qu'il y chantait déjà un peu pour les enfants, parce que j'avais trouvé la tracklist du 33 tours, et j'avais vu qu'il y avait des morceaux qui figuraient sur l'album dont on parlait tout à l'heure, Mon grand frère est un rocker. Alors, La visite au zoo qu'il avait repris avec l'Oscar Ayo, c'était déjà sur le disque de Pénélope. Voilà. Donc il a recyclé ces morceaux un peu plus tard. Après tout, c'est les siens, il fait ce qu'il veut.
Ouais, d'abord.
En 1980, il est videur et sonorisateur dans une salle punk et il arrête son métier d'instituteur. Le saviez-vous, il avait été instituteur.
Et il a arrêté. J'ai l'avoir, moi, en prof.
Visiblement pour des divergences d'opinion pédagogique avec un inspecteur. J'aurais pas aimé être l'inspecteur en question et avoir des divergences d'opinion avec lui.
Ah oui.
Et donc, il se consacre pleinement à la musique. Son premier public, il le rencontre dans le métro. Et puis il traîne tard le soir dans les bars de Pigalle où il claque ce qu'il a gagné difficilement dans la journée. Il le claque Henri Carr le soir dans les bars de Pigalle. Voilà. C'est d'ailleurs le nom qu'il donne à son premier groupe, Pigalle. Pigalle, c'était des musiques qui empruntent à tous les styles et des textes qui dépeignent la réalité des invisibles, ceux dont on ne parle jamais. Les petites gens, quoi.
Ouais.
Pigalle, c'était surtout beaucoup de mélancolie parce que François Hadji Lazaro était mélancolique. Fini l'époque des cafés-concerts qui pullulaient à Pigalle, fini l'époque des squats, tout avait été avalé par la machine capitaliste. Parmi les 7 albums studio de Pigalle, un titre résume cette époque dont on parlait tout à l'heure, l'époque de transition après les squats et avant les smacks, on va dire. Cette chanson s'appelle « Chez Rascal et Renan », elle est issue du deuxième album de Pigalle, qui s'appelle « Regards affligés sur la morne et pitoyable existence » de Benjamin Tremblay, personnage fallot mais ô combien attachant. Le titre est un peu long, mais il vaut le coup. Cher Rascal et Renan, Pigalle.
C'était chez Jimmy qu'on allait le samedi entre Bagnoles et rue des Pyrénées, avec dans le ventre une seule envie, boire un coup et s'éclater à en crever. Y avait tous les copains qui venaient juste pour voir, et puis tous ceux qui jouaient dans les groupes. Pour l'univers c'était leur guitare, pendant que les autres ondulaient la croupe. Chez Rascal et Renan, c'était comme au bal. Pourquoi vous tous qui veniez là, vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot, ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Derrière le bar, y'avait les trois frères qui servaient les petits canons de rouge. C'est toujours les mêmes qui vidaient les verres, bordel, faut que ça bouge. Les vents passent attaquer sur la scène, minuscule, et sa gueule est plus fort que la sono. Les seins des nanas gigotaient sous les pulls, et même quand ça fritait, c'était réglo. Chez Rascal et Renan, c'était comme au bal. Pourquoi vous tous qui veniez là, vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot, ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Thank you. qu'on grognait, on a tous émigré rue de Buzinval. La patronne était cool, le bar était grand, on pouvait bouger, la serveuse nous rendait ma boule. Ça se finissait très tard en discussion d'ivrogne, ou bien les musicos tapaient le bœuf. On repartait parfois avec une petite quepone ou avec un beau coquard tout neuf. Girascal et Renan, c'était comme au bal. Pourquoi vous tous qui veniez là, vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot, ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Puis tout a fermé, les voisins rouspétaient, restaient plus que les groupes et la musique. Alors ils sont arrivés, ceux qui attendaient à grands coups de dollars et de fric. Derrière leur bureau, ils parlaient d'avenir, de rendement, de carrière, de top et de cible. Comment donc ont-ils fait pour vous convertir, vous qui étiez si incorruptibles? Chez Rascal et Renan, c'était comme au bal. Pourquoi vous tous qui veniez là, vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot, ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Peut-être qu'en effet ça pouvait pas durer, mais un rêve on doit pas le casser. Je sais que vous direz que c'est démagogique, mais c'est juste un peu nostalgique. Peut-être qu'en effet ça pouvait pas durer, mais un rêve on doit pas le casser. Je sais que vous direz que c'est démagogique, mais c'est juste un peu nostalgique.
Et voilà, Pigalle, François Di Lazzaro, Cher Ascal et Renan, bah voilà, hein, on la sent la mélancolie, la nostalgie de l'époque où ben, tout le monde avait des valeurs. Et puis finalement, si une major arrive avec un gros chèque alléchant, ben, peut-être qu'on va mettre ses valeurs de côté.
On se laisse tenter, voilà. C'est toujours pareil. Hein.
Lui, il était quand même très engagé, et c'est pas pour rien qu'il a monté son label, j'en parle un peu plus tard. Après avoir monté Pigalle, François rejoint le super groupe Los Carayos, qui rassemble Manu et Antoine Chao de la Mano Negra, on en a parlé tout à l'heure, Schultz de Parabellum, Alain Vampas, le contrebassiste des Vampas. C'est un peu un retour aux sources pour lui, un retour aux sources folk, quoi. Chacun arrive avec ses influences, chante à tour de rôle, du rockabilly, de la folk sud-américaine, de la folk d'Amérique du Nord. Le groupe n'a pas une durée de vie très très longue, il se sépare en 1990 après 3 albums, mais il garde quand même une certaine aura chez tous les fans de cette période. On s'écoute Rosa Mayor, un morceau issu de leur album Persiste et Signe, qui est leur deuxième album, parce que je crois que le premier, c'était Ils ont osé, c'était un live, et Persiste et Signe, c'est leur premier album studio, mais leur deuxième album à eux. Et Rosa Mayor, bah, c'est François qui est au chant, c'est pas Manu Chao, c'est pas Schultz, cette fois, c'est bien François. Et bah, voilà, c'est Los Carayos sur Ultrasonore.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Los Carayos, Rosa Mayor.
Voilà. Toujours plaisir d'entendre un petit Los Carayos quand même.
Mais ouais, c'est incroyable parce que ce groupe, c'est un groupe folk, mais il a quand même l'énergie du rock, quoi. On sent que...
Tu sens que c'est punkisant quand même, quoi.
Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas des mariachis. Hein, voilà. Los Carayos, donc, il s'arrête en 90. Mais bon, entre-temps, donc, François a monté Pigalle, il a rejoint Los Carayos, qui existait visiblement déjà avant lui, il a rejoint l'aventure en cours de route. Et puis enfin, en 1988, François monte son groupe de punk, Les Garçons Bouchers, l'incontournable. C'est ça qui le fait connaître, quoi, avec un nom comme ça et un physique comme le sien, un physique de garçon boucher.
C'était parfait, quoi. C'était L'adéquation était parfaite.
Alors, le savais-tu, il s'appelait les Bolshoskins avant.
Oh.
Ouais. Parce que bah, voilà, c'est des Redskins, quoi. C'était ses influences. Et avant le premier album, il y avait une première démo qu'on peut trouver sur Internet. Il n'y a même pas besoin de chercher trop longtemps, on la trouve très rapidement. Tu tapes Les Garçons Bouchers, Speed Oil Music, et tu tombes sur leur première démo, un son dégueulasse de démo. Voilà.
Bah oui, bien sûr.
Tout le monde se souvient évidemment de l'hymne des Garçons Bouchers. La bière.
Qu'est-ce qu'elle a fait de moi, la bière ?
C'est comme si c'était mon frère. Les succès du groupe déchaînent les pogos, le rap des garçons bouchers, Carnivore, Anthropophage, La Lambada, on n'aime pas ça. Bref, il faut dire qu'on n'est plus du tout dans la folk des Carayos, ni même dans le rock à texte de Pigalle, parce qu'il faut souligner, la qualité des textes de Pigalle qui abordait pour l'époque des thèmes qui n'étaient pas facile à aborder, ils étaient quand même un peu pionniers. Ils avaient une chanson, Pigalle, qui s'appelait Homosexuel et qui racontait un petit peu les difficultés d'un jeune à admettre, à admettre cette sexualité qui était la sienne la honte qu'il pouvait ressentir, les difficultés qu'il pouvait rencontrer. Et je pense que aujourd'hui, c'est peut-être... c'est toujours compliqué pour beaucoup, mais je pense qu'à l'époque, ils étaient assez pionniers pour aborder ces thématiques, quoi. En tout cas, les garçons bouchers, eux, sont moins là-dedans, c'est plus rentre-dedans. C'est vrai que si les textes de Pigalle étaient des chroniques du quotidien, des portraits des petites gens, comme je disais tout à l'heure, les textes des garçons bouchers sont plus directs. Et la musique aussi est plus directe, ils ont une influence clairement.
Ça.
Le premier chanteur, Eric Blitz, quitte le groupe après le deuxième album et il est rapidement remplacé par Pierrot Sapu, à qui il était fait référence dans la chanson « Chez Rascal et Renan » qu'on a écouté tout à l'heure. Voilà. Et franchement, moi c'est mon avis, mais c'est mieux avec Sapu au chant. Voilà. Déjà, on comprend ce qu'il dit.
Voilà.
Et puis, c'était mieux. Pour moi, l'album référence des Garçons Bouchers, c'est Vacarmélite ou La Nonne Bruyante, avec sa pochette signée Roland Topor et son morceau d'introduction qui commence au violon et qu'on va s'écouter tout de suite.
T'as la solution, en somme, se mettre un écran liquide devant les yeux. Il n'y a plus de sang qui coule, tout le monde est vachement cool. Plus de guerre, de maladie, un paradis bourré, bourré ratatam, bourré bourré. Pour ne pas voir le monde bourré, bourré ratatam, bourré bourré. Pour se cacher le monde. Tu vois pas la mort qui passe, tu vis bien dans ton cocon sous protection. L'alcool rend la vie si belle, même ta copine est fidèle. Te voilà riche et heureux, plus près des dieux. Bourré, bourré ratatam, bourré bourré. Pour ne pas voir le monde. Bourré, bourré ratatam, bourré bourré. Pour se cacher le monde. Thank you.
Et voilà, les garçons bouchés, bourré bourré ratatam, c'était le premier morceau de l'album Vacarmélite ou La Nonne Bruyante, c'était le quatrième album studio des garçons bouchés. Un morceau taillé pour le pogo.
Ah bah là, ouais, voilà. Là, le petit pastel, c'est vraiment, t'as envie de mettre des petits coups de coude dans ton voisin.
Exactement, et alors en ce qui me concerne, bah, c'était mon premier concert à la MJC à Bourg, voilà, donc évidemment c'est une Madeleine de Proust pour moi, voilà.
Oui.
Ça a un peu vieilli, je ne l'écoute pas quotidiennement, hein, je dois bien l'avouer, mais quand je l'entends, ça fait toujours plaisir.
Mais complètement.
Voilà. Bon, en parallèle de ces groupes, on parlait de l'indépendance, qui était quand même le maître mot de cette époque pour les groupes.
Oh que oui.
Eh bien, soucieux d'être indépendant et intègre, François Hadji Lazaro a monté son propre label sur lequel de nombreux groupes ont signé. Bah, évidemment, Pigalle, Los Carayos et les Garçons Bouchés, hein, ces groupes à lui, mais aussi la Mano Negra pour son premier album, qui sont un peu sentis à l'étroit et qui sont partis chez Virgin après, mais ce qui a permis, mais ce qui a permis à Boucherie Productions de faire rentrer un peu d'argent dans la boutique quand même.
Ouais,
oui. Bébé Doc, qui était l'autre groupe de Pierrot Sapu, le deuxième chanteur des Garçons Bouchés, que je vous recommande aussi, Bébé Doc, un très bon groupe. Les Deep Tees Indiens, les Happy Drivers, les Roadrunners, les Ailes, qui étaient plus chansons, les Ailes. Puis, dans les années 90, Boucherie Prod s'est étoffée parce que, ben, à force d'accueillir de nouveaux groupes, il fallait quand même faire un petit peu de tri, structurer un petit peu mieux tout ça. Il s'est étoffé avec plusieurs sous-labels qui correspondaient aux différents styles qu'on pouvait trouver chez Boucherie Prod. Il y avait Abatrash pour tout ce qui était metal, trash, même Indus. Il y avait Y-Front, qui était un groupe d'Indus.
Y-Front, c'était
un groupe d'Indus, ils étaient chez Boucherie. Il y avait Chantons sous la truie, qui était le label chanson. Donc il y avait Les Ailes, il y avait Clarica qui continue à tourner. Alors voilà, c'est une chanteuse chanson française, quoi, qui continue à tourner, qui avait fait un très joli album sur le label de Bouche Prod. Et puis Acoustech qui... Ouais. Oui, bah, c'est-à-dire qu'ils étaient très viande. Hein.
Ouais, les vegans à cette époque-là, ça n'existait pas.
Ouais, vraiment. C'est ça. Ouais. Si c'était appelé les haricots verts, peut-être qu'ils auraient fait d'autres sous-labels. Mais,
c'est ça, petits pois.
Les petits pois carottes.
Pois ricordes,
Bon, là, c'était Abatrash, Chantons sous la truie et Acoustech. Acoustech, qui était pour toutes les musiques folk, parce que bah, François Hadji Lazaro était un vrai amoureux des musiques folk, et il avait quand même réussi à attirer sur son label des pointures en la matière. Alors, pour nous, ça n'a peut-être pas trop nous causer, mais il y avait Gabriel Yacoub, et c'était des pointures de la musique folk, quoi. Voilà. Et puis, les meilleures choses ont une fin et tout s'est arrêté en 2001. Voilà, dépôt de bilan, fin de Boucherie Production.
Il n'y avait plus de sous dans la caisse.
Voilà, François n'a pas gagné la guerre contre les majors. Mais on peut dire qu'il se sera bien battu. Il avait quand même bien structuré son truc. Il y avait, je me souviens, à Bourg, à côté de la Visirette, il y avait un petit disquaire chez qui j'allais passer beaucoup d'heures, qui était estampillé boucher disquaire pilote, voilà. Donc il vendait pas de viande, hein, mais il diffusait tous les disques de Boucherie Production, et dans chaque petite ville comme Bourg, il y avait des disquaires, des bouchers disquaires pilotes,
des distributeurs locaux.
Voilà, c'est ça, ouais. Tout s'est arrêté, voilà. Il a continué un petit peu sous son nom. Il a sorti des albums sous le nom de François Hadji Lazaro, je crois 3 albums en tout, dont un album où il reprenait des textes de Roland Topor, voilà. Il a repris Pigalle, il a remis sur scène Pigalle, il a fait 3 disques pour enfants, on en parlait aussi tout à l'heure, qu'on a eu la chance de voir en concert à la Tannerie, à Bourg. Et du coup, voilà, c'est plaisant aussi de pouvoir emmener ses gamins.
Voir ce mec, quoi.
Voilà. Il s'est passionné pour le vin, pour le vin naturel. Ouais. C'était vraiment une passion pour lui. Il était.
Il aimait
la bonne chair.
La bonne table.
C'était un épicurien. Ouais, il avait même fait un truc où à chaque concert dans une ville, il trouvait un producteur de vin naturel. Donc c'est-à-dire vin naturel, c'est on rajoute pas de sucre. Au-delà du bio, si tu veux. Ouais. Voilà. Et il trouvait un producteur et il faisait un partenariat. Il vendait le vin sur les concerts. Il avait fait une tournée comme ça.
Ah, d'accord.
Donc, c'était un vrai passionné, en fait, de vin. C'était pas juste un buveur de vin. Et puis, il est mort le samedi, 25 février 2023. Voilà. Alors, voilà. Pour moi, toute cette époque, c'est une Madeleine de Proust, quoi. Tout ça, Pigalle, Los Carayos, Les Garçons Bouchers, c'est une Madeleine de Proust. Et c'est marrant, il y a quelques années, moi, j'avais appris le décès d'Anne Sylvestre. Rien à voir, tu vas me dire. Hein. Mais ça avait réveillé le petit garçon que j'étais. Et qui écoutait les fabulettes d'Anne Sylvestre sur son manche-disque, allongé sur la moquette de sa chambre. Et le décès de François G. Lazaro, lui, eh ben, évidemment, il est venu réveiller l'ado qui, en troisième, assistait à son premier concert avec son meilleur pote à la MJC de Bourg, Les Garçons Bouchers. Plus tard, je guettais la programmation de la cave à musique, et puis j'allais y voir Pigalle, puis à nouveau Les Garçons Bouchers, puis plein d'autres groupes, hein, pas forcément de boucherie, mais ça, du coup, ça m'a ouvert des portes, clairement, quoi. Et puis, je m'y faisais des copains de pogo, le temps d'une soirée, des gars que je connaissais pas, mais qui me ramassaient quand je glissais sur une flaque de bière, parce que, autant le dire, il y avait autant de bière dans les verres que sur le carrelage.
Ça collait à force. Hein.
Et puis, t'avais toujours un bon gars pour te relever, et puis te refoutre dans le pogo avec un grand sourire parce qu'il avait 10 ans de plus que toi et qu'il savait ce que c'était d'avoir 16, 17 ans et puis de se casser la gueule dans un pogo parce que t'es une brindille.
De
quoi.
De prendre l'alcool, surtout. Voilà.
et puis, je rêvais devant la pochette de Rire et Pleurer chez ce fameux disquaire, là, à côté de la Visirette. La pochette de Rire et Pleurer, qui est le troisième album studio de Pigalle. Et je rêvais devant la liste des instruments dont jouait François. De mémoire, il y en avait une vingtaine.
Ouais, un multi-instrumentiste de...
C'était toute une époque. C'était notre jeunesse. On parle comme des vieux cons, mais...
Ah, écoute, c'est comme ça, voilà.
Moi, je payerais...
C'est l'histoire aussi. L'histoire. Nos enfants doivent savoir.
C'est vrai. Voilà. Et moi, j'avais envie qu'on se quitte là-dessus sur deux morceaux de Pigalle. Qui sont moins connus que dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, mais qui valent le détour quand même. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut se dire au revoir maintenant
et
envoyer la musique ?
Et on va enchaîner les deux Pigalle.
Voilà, exactement.
Donc, j'espère que cette émission vous aura plu. Vous pourrez donc la réécouter en direct sur les ondes de Radio B. Vous pouvez la réécouter quand vous voulez, où vous voulez, en podcast, bien sûr, sur radio-b.fr, sur Podcast Addict. Et puis bientôt, peut-être encore sur d'autres plateformes, on est présent de partout.
All over the world,
s'il vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à réécouter cette émission, toutes les émissions ultra sonores d'ailleurs, le dimanche quand vous passez l'aspirateur chez vous.
Exactement.
Voilà, donc c'était une
spéciale...
Ou quand
vous faites la vaisselle, parce que l'aspirateur, ça fait du bruit.
Ouais, avec le casque, moi, je mets des podcasts au casque. Et ça marche très bien.
Ça marche très bien.
Voilà, donc, émission, on l'avait compris, d'un bonhomme qui nous a marqué, Fred et moi-même. Donc, c'était François Hadji Lazaro, qu'on salue. Qu'on salue là-haut, où qu'il soit, je ne sais pas où il est, mais je pense qu'il est autour d'une bonne assiette, d'un bon verre de vin. Et ma foi, vu les temps que l'on vit, nous, ici, eh bien, il a bien raison et j'espère qu'il en profitera, il le mérite. Voilà, on se donne rendez-vous donc mardi dans 15 jours.
Dans 15 jours.
Nouveau programme, nouvelle divagation radiophonique. Et voilà.
Et puis voilà, on se quitte avec Pigalle. Alors, deux titres de Pigalle, dont une reprise de Graham Allwright. Très musclé. Voilà.
Là, très bien. On s'écoute ça. Allez, merci d'avoir été à
l'écoute.
C'était Ultra Sonore sur Radio B. Rendez-vous mardi prochain. Ciao, bye bye.
Rejouer juste une fois à la récré avec les potes. Faire en sorte de se retrouver en short avec les ptios et les ptiotes. Sentir le souffle de la maîtresse dans mon cou. Manger à la cantine avec le petit Gilou. Et la sieste après, ah, ça valait vraiment le coup. Ah, jouer juste une fois à la récré avec les potes. Faire en sorte de se retrouver en short avec les ptios et les ptiotes. Raconter à tout le monde des histoires qui tiennent pas debout. Leur faire croire que j'ai même pas peur des loups. Mais quand même aimer pour me câliner tout doux. Être un peu malade, rester au lit sous l'édredon. En attendant que maman apporte la purée et le jambon. Surveillé, attendri par ma paire de petits chaussons. Rejouer juste une fois à la récré avec les potes. Faire en sorte de se retrouver en short avec les ptios et les ptiotes. Prendre sans faire exprès la main de la petite Louison. Lui dire que je suis un bon garçon. Même si elle se moque des taches sur mon pantalon. Jouer juste une fois à la récré avec les potes. Faire en sorte de se retrouver en short avec les ptios et les ptiotes. Me dire qu'un jour je serai pompier ou président. Et jouer quand même aux billes en attendant. Et pleurer juste un peu en perdant ma dent de devant. Au supermarché avec mémé. Assis dans le caddie, je me laisse pousser. En me foutant royalement des prochaines années. Jouer juste une fois à la récré avec les potes. Faire en sorte de se retrouver en short avec les pions et les pions. Jouer juste une fois à la récré avec les potes. À la récré avec les potes. Avec les potes.
Ultra sonore,
sonore, sonore, sonore.
Le temps est loin de nos 20 ans. Des coups de poing, des coups de sang. Mais qu'à ce la tienne, c'est pas fini. Chanter quand le verre est bien rempli.
Vivons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On l'a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi de cet été, la première fois qu'on s'est saoulé. Tu m'as ramené à la maison en chantant mon mari. C'est un reculant.
Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On l'a fêté au retrouvail. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille.
À la mairie d'un petit village, je rigolais dans mon plastron quand le maire essayait de prononcer mon nom.
Buvons encore une dernière fois
à l'amitié, l'amour, la joie. On l'a fêté, nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je n'ai pas écrit toutes ces années. Et toi aussi, t'es marié, t'as trois enfants à faire manger. Moi j'en ai cinq, si ça peut te consoler.
Vivons encore,
une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. On l'a fêté, au retrouvaille. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Vivons encore, une dernière fois.
Premier et le troisième mardi du mois, de 20h à 21h, retrouvez votre émission musicale et culturelle Ultra Sonore. Amis auditeurs et auditrices, passez en mode défricheur et découvrez avec nous les artistes de la scène alternative.
Ultra Sonore, c'est le premier et le troisième mardi du mois à 20h sur Radio B et retrouvez l'émission en podcast et sur Facebook.